Le temps de lire. Chaque mois, retrouvez les coups de cœur littéraires d'Anne-Françoise. Le temps de lire. Présenté par Anne-Françoise Rocchitelli. Le temps de lire, troisième épisode déjà en compagnie d'Anne-Françoise. Bonjour Anne-Françoise.
Bonjour.
Ce mois-ci, tu nous présentes un livre écrit à quatre mains, Save Us de Joyce Ormond et Maïlys de Carangal aux éditions Inculte.
Voilà, on a déjà parlé avant le temps de lire, hein, quand on était en confinement, de Maïlys de Carangal au moins deux fois avec Un monde
réparer
à portée de
vivants.
La main et Réparer les vivants. Voilà, et là, c'est un livre, c'est une expérience particulière, on parlera un peu plus loin de cette expérience d'écriture. Un petit livre hein, pour les gens qui n'ont pas beaucoup le temps de lire, il y a seulement 107 pages,
ah oui,
ça se lit en une heure ou deux, mais c'est très très agréable à lire. Et ça s'appelle Save Us. Save Us, c'est inspiré en fait d'un endroit, c'est un nom imaginaire, hein, Save Us.
Oui, il faut bien préciser qu'on est dans un roman documenté.
Voilà, c'est ça. C'est un roman inspiré de la réalité et inspiré en fait de ce qui s'est passé en 1952, mais aussi aujourd'hui. On va comprendre que c'est un livre qui a été écrit à quatre mains, mais qui alterne aussi deux époques dans le récit. La construction d'un barrage en 1952, donc inspiré du barrage de Tignes, en Savoie, et ce qui arrive à un personnage d'aujourd'hui qui doit aller à Tignes pour raisons professionnelles pour inspecter le barrage. Donc je vais commencer par lire un petit passage. 16h11. L'espace est silencieux. La route qui couronne le barrage est vide. Seul un épervier de grande envergure plane au-dessus du lac, décrivant des cercles dans le ciel pur. Tommy ne connaît rien aux oiseaux de montagne. Ne saurait distinguer un tétralyre d'un aigle royal, mais commence lui aussi à tourner en rond entre le parapet du barrage et la passade qui refroidit, troublé de ne pas voir apparaître Brissogne, lequel lui a pourtant envoyé dans la nuit un message outrant l'aridité professionnelle, rendez-vous barrage 15h. Nouveau coup d'œil à sa montre, où la grande aiguille ne bouge plus. Tommy tapote le cadran, le presse contre son oreille, écoute, rien. Sort son portable, 16h16, il espère un message de Brissogne lui signalant un problème, un retard et par là même s'excusant, mais son téléphone ne capte rien. Tommy pivote, oriente l'appareil dans toutes les directions, agacé. La centrale électrique de Save Us, soit le plus important site producteur d'électricité de la nation, serait donc une poche de territoire sans couverture réseau, une zone blanche.
Voilà, donc on est bien au cœur de la montagne.
Tommy Mott est un ingénieur qui travaille pour EDF et qui doit aller parce que on arrive à la fin de la concession du barrage de Save Us, donc. Il doit aller inspecter le barrage. On ne saura pas exactement ce qu'il doit faire, en fait, parce que de toute façon, il ne fera rien du tout. Et donc, il a roulé pendant 7 heures toute la nuit pour arriver à Save Us, comme il le fait souvent, puisque c'est son travail. Et en fait, dès qu'il va arriver au niveau du barrage, il va découvrir donc cette immensité. Enfin, moi, je sais ce que c'est que le barrage de Tignes. Les auditeurs, pas forcément, mais c'est vraiment quelque chose de très, très impressionnant
très imposant, ouais.
Et qui est extrêmement bien raconté, décrit dans ce livre. C'est une modification du paysage. Voilà, un lac artificiel, un barrage absolument immense. Je pense que ça doit être le plus grand barrage de France et le plus ancien, probablement. Et en fait... rien, à partir du moment où il va arriver en fait au barrage, rien ne va se dérouler comme prévu, c'est-à-dire que la personne qu'il devait rencontrer n'est pas là, l'hôtel où il doit aller est vide, enfin tout. Dès qu'il arrive en fait, il se retrouve dans une atmosphère un peu particulière et je dirais à la limite du fantastique et il se demande en fait ce qui lui arrive.
Oui, parce qu'il y a une dimension de toute façon éminemment fantastique dans ce livre. Et il va avoir des visions, notre
voilà.
personnage.
Et en fait, on va... Donc le roman, comme je le disais, alterne en fait... Il y a deux histoires dans le roman, c'est-à-dire que l'histoire de Tommy, qui va se dérouler durant quatre jours, pratiquement toujours à proximité immédiate du barrage, et dans un autre récit qui est écrit dans une autre couleur... Donc je montre à Amaury, puisque nous sommes à la radio. Voilà.
On le visualise. Oui,
voilà, on a une alternance de chapitres, dans les chapitres écrits en noir qui parlent de la visite de Tommy Mott à Save Us, et les chapitres écrits en bleu qui racontent la construction du barrage. Donc là, je vais lire un petit passage de la partie de 1950-52.
Nous t'écoutons.
J'ignore à quel moment ceux du village ont compris que c'était plié. À quel instant précis cette certitude s'est dressée, brûlante, alors qu'elle avait si longtemps rampé dans leur cerveau, honteuse, une couleuvre. Jusque-là, ils avaient envisagé le barrage comme on passe un œil furtif dans le trou d'une serrure, redoutant ce qu'ils allaient voir, et chassaient aussitôt l'image inconcevable à l'arrière de l'occiput où elle pesait. Et je ne sais pas non plus comment elle est parvenue à miner leurs espoirs, à démanteler leur déni, comment elle a durci en travail de leur conscience, irréversible. Mais le fait est qu'ils ont su que tout allait disparaître, qu'il ne resterait rien. Certes, ils n'ont pas réagi tout de suite, sonné, le visage tordu, les yeux fixes et les pieds lourds, tandis que l'idée de la noyade de Seyvoz, son engloutissement programmé, se répandait dans le village, serpentine. Ils ont continué à se lever le matin, à refaire ces gestes qui étayaient les jours, le feu allumé dans la cheminée, l'eau glacée sur le front, les souliers lacés, le pain tranché sur la planche de bois, le café noir dans le bol et la première bouffée de tabac, puis la porte soudain ouverte sur le dehors, le vallon, où tout est blanc en ce mois de février, un blanc mat, un blanc qu'il serait un peu trop facile de comparer à un linceul, mais qui, tout en aplanissant le relief extraordinaire, en conserve tout de même la vague drapée. Je me demande s'ils se sont arrêtés sur le seuil des maisons, s'ils ont respiré à plein poumon tandis que leur regard embrassait ce paysage qui avait littéralement façonné leur vie. Un travelling panoramique qui aurait combiné l'exploration horizontale et l'échappée vers les cimes. Si l'on regardait comme on se penche sur ce qui va mourir pour ne pas l'oublier. Je ne le pense pas. Ce n'est pas ainsi qu'ils habitaient leur pays. Non qu'ils fussent désinvoltes, oublieux et incapables de relever précisément ce qui devait l'être pour le confiner au fond d'eux-mêmes, dessiner, enregistrer, photographier, filmer. Mais la montagne leur était autre chose. Ils vivaient dedans. C'est le corps qui logeait leur existence. Ils ne s'en séparaient pas et marchaient le plus souvent tête baissée. Savoir où poser les pieds sur ce terrain de glace et de cailloux est plus recommandé que cligner de la paupière devant ce qui scintille là-haut. Voilà donc deux récits différents. Tignes, donc, Seyvoz, en 1950-52 jusqu'à la construction
mais
du barrage.
Mais c'est que nous sommes donc dans le roman sur le barrage de Seyvoz, mais les descriptions qui est faite, la partie historique du livre, se base sur le barrage de Tignes.
Oui, c'est ça. De toute façon, Seyvoz, c'est Tignes. Et d'ailleurs, Malice de Kerangal, en fait, est... Joyce Ormond sont allées, enfin je me suis un petit peu renseignée, elles sont passées 4-5 jours pendant le confinement, ce qui explique aussi finalement, je ne sais pas si c'était vraiment voulu au départ, cette atmosphère un peu particulière et limite du fantastique. Voilà, parce qu'elles se sont retrouvées, je suppose d'ailleurs qu'elles ont dû invoquer une raison exceptionnelle pour aller jusque là-bas en plein confinement, passer une petite semaine et découvrir ce paysage, parce que c'est vraiment un roman qui parle... c'est un petit roman, mais c'est quand même un roman, qui parle du paysage et de la transformation d'un paysage par l'homme, en fait. Ce qui est quand même... ce qui est finalement courant, mais on ne s'en rend pas toujours compte. Là, c'est assez flagrant. Et donc, elles sont allées à l'hôtel, où elles étaient a priori toutes seules. Enfin, voilà. Donc, et elles-mêmes, elles ont vécu cette expérience un peu paranormale, on va dire. De voyager, de se retrouver dans un village alors que tout le monde était quasiment cloîtré chez soi et de découvrir ce paysage qui est quand même à la fois grandiose, impressionnant et effectivement qui a une légère dimension inquiétante. Mais ça explique en tout cas ça. Et donc, voilà, elles ont décidé d'écrire un récit en décalé finalement. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'elles n'ont pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'y en a pas une qui a écrit la partie contemporaine et l'autre la partie historique, pas du tout. Elles ont vraiment écrit ensemble, à quatre mains. Elles ont écrit le début, pour le début du livre. En fait, il a fallu qu'elles travaillent pour trouver harmoniser leur style d'écriture et trouver une écriture, une langue commune, parce que malgré tout, quand on lit ça, enfin, j'ai jamais lu de livre de Joyce Ormond, mais j'ai lu plusieurs livres de Maïlys de Kerangal, c'est très très caractéristique, on reconnaît immédiatement son écriture, et là, effectivement, on reconnaît pas. Enfin, c'est pas tout à fait pareil que d'habitude. C'est pas flagrant. Et en fait, donc il a fallu qu'elle fasse une espèce de langue, qu'elle crée une espèce de langue commune. Et donc, pour le début du livre et pour la fin, elles se sont mises, elles ont vraiment fait l'exercice de se mettre toutes les deux devant un ordinateur et d'écrire ensemble, de dire les phrases et de les écrire. Et puis après, elles ont écrit des passages chacune de leur côté. Elles ont relu chacune tous les passages pour voir si ça leur convenait. Et franchement, quand on lit le livre, c'est complètement fluide. Et cette alternance entre justement la partie historique et la partie contemporaine est tout à fait... ça passe tout à fait naturellement et c'est très très agréable à lire.
Tu nous disais d'ailleurs que c'est un livre qui met un grand honneur en tout cas à nous décrire les paysages, mais qui nous décrit aussi les habitants. Donc de ce lieu, en tout cas les habitants en 1952 lors de la construction du barrage. Et c'est assez étonnant parce qu'on pourrait presque le transposer à notre époque, qu'on ressentirait presque la même chose pour ces personnages.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, moi j'ai été assez surprise parce que j'en ai souvent entendu parler de cette histoire de Tin, parce qu'il se trouve que mes parents habitent à Albertville et ils ont une voisine et amie que j'ai toujours connue et en fait dont la famille qui a vécu ça, l'engloutissement du village de Tin, et c'est quelque chose qui a été vraiment un traumatisme. Mais quelque part, ça peut nous faire penser aussi aux ZAD et à tous ces endroits aujourd'hui où on veut créer des aéroports ou des choses comme ça et où en gros, on va complètement faire disparaître, en fait, alors à la fois un paysage et puis une zone de vie. Alors, il y a souvent aujourd'hui, on choisit des endroits déserts, mais là, c'était absolument le cas. C'était absolument pas le cas. Et il faut bien rappeler, pour les gens qui le savent pas, qu'il y avait un village donc, qui était à l'emplacement choisi pour le barrage et que le village a été complètement...
englouti finalement.
Il a été explosé en fait avant. Les gens ont été expropriés.
D'accord.
Il y en a qui n'ont pas voulu être. Enfin, ils avaient jusqu'à une certaine date pour être expropriés, pour être indemnisés en fait. Et ceux qui refusaient d'être expropriés n'étaient pas indemnisés. Et il y en a qui sont restés vraiment jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la limite d'être engloutis eux aussi parce qu'ils n'avaient pas le. Ils voulaient pas quitter leur maison.
Ouais, la manière d'une zone à défendre comme tu
c'est ça. Le village a été reconstruit en fait un petit peu plus haut. L'église a été complètement démoli pierre par pierre et reconstruit, Notre-Dame-des-Neiges un peu plus haut. Le cimetière, les morts ont été exhumés, donc ça le raconte vraiment, c'est très émouvant dans le livre. Et les gens sont venus voir, en fait, et ils essayaient de vérifier si on enlevait bien les squelettes, les cercueils comme il faut, et si on n'allait pas tous les remélanger plus tard, alors qu'il y en a qui étaient enterrés depuis 200 ans. Mais il a été reconstruit, enfin, c'était vraiment...
C'est qu'on a vraiment transposé le village d'un point A à un point B.
Complètement, parce que de toute façon, il fallait bien... Enfin, les gens n'allaient pas partir vivre dans des immeubles dans la plaine, c'est clair. C'était des gens qui étaient paysans, enfin, qui élevaient des vaches, et donc voilà. Et aujourd'hui, finalement, ça a donné la station de Tin, qui est une station de ski internationalement connu. Et franchement, les gens qui ont accepté cette expropriation, finalement, on en tirait pas mal de bénéfices. Mais voilà, il faut vraiment savoir que dans ce lac de Tignes, il y a un village englouti. Elle explique bien d'ailleurs que les ombres, quand on voit le barrage, on voit des ombres qui n'ont rien à voir en fait avec la montagne autour ou avec le soleil parce que il y a des choses au fond du barrage qui sont restées là. Et il y a un très beau passage dans le livre qui raconte une plongée en fait et le héros Tommy est puis accompagné par une comment on dit, pas une maître nageuse mais une plongeuse voilà une plongeuse. Dans une scène là aussi qui est complètement onirique et dont on se demande si elle a eu lieu vraiment réellement, puisqu'il y a plusieurs scènes comme ça, mais il va se retrouver en fait à explorer le village englouti. Et voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'elle raconte à la fois le traumatisme en fait pour les habitants de ce village, et puis la transformation du paysage, parce que finalement c'est une histoire qui raconte... c'est une lutte en fait, comme tous ces événements, comme tous ces grands chantiers, entre les gens qui habitaient là depuis toujours, depuis des générations, et c'était leur village, et on n'a pas du tout envie que son village, personne n'a envie que son village soit démoli et soit reconstruit 10 km plus haut, et puis entre d'autres gens qui, eux, étaient les pouvoirs publics, les gens d'EDF, etc., qui venaient... qui avait décidé de faire ce barrage, tout simplement. Et puis aussi, les ouvriers qui sont venus construire ce barrage. Et ça, c'est quelque chose que je... comment dire, que bah, j'avais jamais, à quoi j'avais jamais particulièrement pensé. Mais il faut savoir aussi que bah, ce genre de chantier, dans les années 50, c'était quand même très important en France, puisque ça donnait du travail aux gens.
Oui, parce que c'est un chantier d'après-guerre aussi, où on profite finalement de la reconstruction du pays pour les gros chantiers, et du coup créer énormément de travail.
C'est ça, exactement. Et on a des ouvriers qui sont venus de très très loin pour construire ce barrage. Donc là, je vais lire un troisième passage.
T'écoutons.
Dans le cœur de la mère de Joachim, je ne saurais dire quel sentiment l'emporte. Entre l'orgueil d'avoir engendré un fils ambitieux, la peine de le voir partir et l'appât du gain, le jeune homme ayant promis de lui envoyer chaque mois la moitié de son salaire. Car son garçon ne veut plus veiller les bêtes. S'est lassé de ce silencieux tête-à-tête avec les brebis et à 23 ans ne pense plus qu'à fuir le village de Castello Mendo. La rumeur qui a d'abord gagné l'Espagne s'étend maintenant le long de la frontière. Dans la montagne française, un chantier se prépare. Historique, pharaonique, on va édifier le plus haut barrage d'Europe, inscrire la France dans la modernité, reconstruire un pays accablé par la guerre. Et pour ce faire, on a besoin de bras. De bras européens, portugais en particulier. Des bras qui feront honneur à leur tradition maçonne. Et ceux de Joachim sont dorés, nerveux et forts d'avoir soulevé chaque saison meules, lauzes, bottes de foin et animaux. Il ne lui faut que quelques semaines pour leur donner une nouvelle destination, les former à un nouvel art, celui de fabriquer la chaux, concasser la pierre, couler le béton, et pour apprendre quelques rudiments de français courant et de génie civil. Voilà, donc on va aussi, finalement, c'est quand même incroyable parce qu'on se dit que ces paysans éleveurs de vaches vont perdre leur village et finalement on a d'autres paysans, d'autres éleveurs de chèvres ou d'autres animaux qui vont venir de l'autre bout de l'Europe pour construire ce barrage et on va voir. La première chose que découvre en fait Tommy quand il arrive à côté du barrage, c'est une sorte de monument aux morts en fait, à la gloire des ouvriers qui sont morts pendant la construction du barrage. Il y en a 52 et bah oui, parce que c'était quand même... C'était un travail dangereux. Et finalement, eux, ils y allaient complètement...
Oui, d'ailleurs, c'est étonnant cette différence de point de vue. On a les villageois qui voient ça comme un apocalypse pour leur lieu de vie et les ouvriers qui, du coup, voient ça presque comme l'édification d'une 7e, 8e merveille du monde.
C'est ça, c'est ça. Et puis, pour eux, c'est un miracle puisqu'ils vont gagner de l'argent, ils vont l'envoyer à leur famille, ils vont découvrir une vie. On va voir que sur le chantier, ils découvrent une vie... différentes, puisqu'ils arrivent de la campagne et en fait là ils sont dans la montagne, mais il y a 5600 personnes quand même.
Donc on est déjà au niveau d'une ville. Quoi.
Voilà, ça fait du monde. Et puis finalement il va y avoir des rencontres parce que bon, il y en a qui vont, il y a des paysans savoyards qui vont vraiment se replier sur eux-mêmes et refuser de rentrer en contact avec cette nouvelle population, mais ça va être comme partout. Au bout d'un moment, ça va finir par se mélanger un peu et puis voilà, il y en a qui vont se marier avec des filles du pays et. Et au bout d'un moment, cette population-là, enfin, en Savoie, il y a énormément de gens qui sont arrivés pour tous ces grands chantiers et qui sont restés, hein, des Italiens, des Portugais, des Espagnols, des Turcs, et voilà. Et maintenant, bah, ils sont un peu fondus dans la population, tous ceux qui venaient d'Europe, hein, en tout cas. Alors, en alternance avec ça, on a ce récit de Tommy qui est complètement... irréel, c'est vraiment le mot. Parce que finalement, donc, il ne va pas rencontrer Brissogne, le type qu'il devait rencontrer pour son rendez-vous technique. Il va arriver dans un hôtel alors qu'il a réservé, qu'il a entendu visiblement une voix de femme chaleureuse et tout, qui lui a promis qu'il allait avoir une chambre tout ce qu'il y a plus confortable et tout. Et en fait, quand il arrive, il n'y a personne à la réception. Il y a juste un petit mot avec la clé de la chambre. Il se retrouve dans une chambre qui ressemble à une chambre de... Formule 1 ou de trucs de ce genre-là, enfin, froide, standard. On lui dépose un plateau repas qui est à peu près aussi agréable que ceux des hôpitaux ou des avions devant la porte. Tout est comme ça. Et donc, il commence à se demander ce qui se passe. Et, si... et donc, voilà, son téléphone ne capte plus rien. Et effectivement, il va avoir, alors je ne vais pas te raconter, hein, parce que, mais des visions, et il va y avoir plusieurs choses, plusieurs moments successifs de l'histoire, enfin en tout cas au moins un par jour, où il va se demander si c'est lui qui perd la tête ou si vraiment les choses se passent comme ça. Il va rencontrer des gens et se demander après s'ils existent vraiment, s'il les a vraiment rencontrés. Il y a vraiment un contraste entre finalement ce récit historique, tout ce qu'il y a de plus ancré dans la réalité et dans l'histoire, et puis ce passage d'un homme qui vient voir ce barrage. Et on a presque l'impression, comment dire, que c'est une espèce de je sais pas, ça donne cette idée là de comme si la montagne finalement prenait sa revanche d'avoir été trahi par les hommes finalement et se venge sur ce représentant
d'EDF,
oui. D'EDF, oui. qui vient le visiter. En tout cas, la nature prend un peu sa revanche. Chaque fois qu'il va quelque part, il est saisi à la fois par les éléments. En fait, on sent bien ça, hein, parce que lui, donc le barrage, ça représente vraiment l'irruption de l'artificiel dans la nature, hein, en fait, dans le paysage, la partie du paysage qui est construite par l'homme. Et en fait, il va se heurter, lui, aux éléments qui vont prendre le dessus, c'est-à-dire à la fois l'eau, le brouillard, la nuit. Et en fait, il va plus savoir... il va plus du tout savoir où il en est au bout d'un moment.
Mais une alternance donc entre fiction, pas fiction, c'est pas le bon terme, mais fantastique, on va dire, avec l'histoire de Tommy,
oui.
Et une partie un peu plus historique avec justement le récit du passé, mais un récit qui est très documenté et pourrait presque faire office de documentaire.
Alors en fait, oui et non, parce que c'est à la fois un récit qui est très documenté, effectivement. Et en même temps, il y a un côté conte, je dirais. Parce que malgré tout, quand même, un lac englouti, enfin un village englouti sous un lac, l'église transplantée et tout ça. Puis on est dans la montagne, les animaux et tout. Donc, ça fait quand même un petit côté, il était une fois en 1952, voilà. Et même, et puis on va voir, parce que le récit, enfin là, j'ai raconté juste le début, l'arrivée de Joachim, mais on va voir que ça ne va pas forcément très bien se passer. Et que finalement, là aussi... Il y a justement cet élément, pas forcément fantastique, mais il y a une force, il y a une telle force dans ce barrage, dans ce chantier. Forcément, dans les chantiers, il y a des accidents, il y a l'homme n'a pas la maîtrise de tout, en fait. Il y a des choses qui lui échappent, et du coup, il arrive des événements...
Presque un cimetière indien, finalement.
Imprévu, voilà, c'est... Et donc Tommy va être un peu, aspiré finalement par cet environnement un peu bizarre. Donc là, je vais lire un dernier petit passage. Le brouillard appartient à la terre et à l'eau. Il monte. Il ne cesse de monter. De même que monte l'affolement de Tommy, qui serre les mains sur le volant, le cou rentré dans les épaules, la plante du pied suspendue au-dessus de la pédale de frein. Les écharpes vaporeuses apparues au sortir de Faucelles ne forment plus qu'une crasse stagnante où il navigue à vue, où il s'enfonce, sûr d'avoir basculé du côté de l'informe et de la désolation. Son regard erre sans accrocher le moindre repère. Le paysage a disparu. La montagne s'est désintégrée, pulvérisée dans l'atmosphère en un amas de gouttelettes glacées qui dégoulinent le long des vitres et de ses tempes blêmes. La violente mélancolie qui l'a envahie au seau du lit s'est renversée au dehors. Elle a basculé de l'autre côté du pare-brise, elle se répand dans la vallée, et tout se passe comme s'il roulait au ralenti dans son propre cerveau. En fait, si on relit ce livre une deuxième fois, ou si on en laisse un petit peu reposer, on va vite comprendre que finalement, tout s'explique et qu'il n'y a rien de si fantastique que ça. C'est juste que lui, il a beaucoup roulé pour venir, il est fatigué, on va vite comprendre qu'il a d'autres soucis, d'autres préoccupations, parce que finalement, il est à la fois sur un site, la nuit par exemple, il est sur son ordinateur, sur un site d'enchères pour acheter une statuette d'une valeur incroyable à 7000 euros ou quelque chose comme ça, et en même temps, il pense à son barrage, et en même temps, il se retrouve dans le brouillard et il rencontre des gens qui sont là, qui sortent de nulle part et qui disparaissent en même temps. Enfin, il va plonger dans le lac, enfin, des événements quand même qui sont complètement étranges par rapport à sa vie habituelle. Mais c'est juste finalement, voilà, le brouillard, je dirais peut-être le mal des montagnes, tout simplement, parce qu'à Tignes, on est quand même à plus de 2000 mètres d'altitude, et pour quelqu'un qui vient de Paris et qui n'est jamais allé aussi haut, ça peut tout à fait suffire à donner une impression de se sentir un petit peu perdu et évaporé et tout ce qu'on veut. Donc finalement, c'est juste, c'est cette idée de la revanche de la nature par rapport à ce que ce que l'homme lui a fait, et comme lui, finalement, il est le représentant de ceux qui sont intervenus 50 ans plus tôt ou 70 ans plus tôt, et ben c'est lui qui, finalement, va vivre ça, et il va finalement, au bout de 4 jours, remonter dans sa voiture et s'échapper, filer jusqu'à Paris. Et dès qu'il va redescendre, en fait, simplement dans la plaine à 300 mètres d'altitude, et ben tout va redevenir normal. Mais c'est justement l'intérêt de... Je dirais que l'intérêt principal de ce livre, c'est finalement cet exercice d'écriture. Et parce que c'est vraiment la langue qui permet enfin, en tout cas, ce livre illustre vraiment bien ça. Tous les bons livres le font, mais là, on peut vraiment le dire. Tout est finalement dans la manière de raconter qui nous place au bout de 5 minutes dans un récit un peu fantastique, dans une atmosphère de conte, alors que finalement, il s'est rien passé de si terrible. Mais c'est là qu'on voit la puissance de l'écriture, qui est finalement aussi forte que la puissance industrielle, la puissance électrique, la puissance de ce barrage qui transforme finalement qui a complètement transformé le paysage. Et c'est pas le seul endroit, puisque par exemple je m'étais rendu compte une fois en lisant un livre que les plateaux des Causses, par exemple, qui sont aujourd'hui des alpages complètement déserts, ont été, je ne sais pas, au Moyen-Âge, au 14e ou 15e siècle, étaient des forêts recouvertes de sapins, et qu'en fait, les arbres ont été enlevés par l'homme. Donc l'homme, de toute façon, façonne le paysage depuis toujours. Mais voilà, il arrive à transformer de manière assez incroyable, en fait, par son travail, le paysage. Par le travail de ses mains. On le voit très bien dans le livre avec l'histoire de Joachim. Et les écrivains, là aussi, par leur écriture à quatre mains, parce que finalement, on écrit avec son cerveau, mais on écrit aussi avec ses mains, que ce soit avec un ordinateur ou avec un stylo. Et finalement, arrivent elles aussi, puisque là, ce sont des femmes, à transformer complètement un paysage et à transformer le ressenti que... Enfin, comment dire, à vraiment... aspirer quelqu'un, transformer l'atmosphère et finalement transformer ce qu'il voit, lui donner des visions et lui donner l'impression qu'il est dans un monde complètement onirique, alors que finalement c'est juste la montagne.
Toujours une part de mystère quand même dans cette montagne finalement.
Oui, exactement.
Et bien avant de conclure, Anne-Françoise, est-ce que tu souhaiterais nous relire un petit passage?
Oui. Donc je termine avec l'histoire de Tommy. À mesure qu'il s'enfonce dans le lac, l'eau se peuple d'une faune et d'une fleur insoupçonnées. Algues immenses et phosphorescentes, longues herbes aquatiques d'un vert émeraude, nénuphars des bas-fonds qui reflètent la lumière, tapis de characées fluo, plancton et lucioles, élodés d'un vert pomme éclatant, une jungle marine étincelante. L'hydroélectricité a-t-elle fait prospérer ce biotope prodigieux? Là évoluent des colonies de poissons, ombles du Canada reconnaissables à leur bouche fendue et leur nageoire ventrale échancrée. À leurs robes tachetées de marbrure, truites fario argentées piquées de points rouges, truites arc-en-ciel rosées sur les flancs, carpes dorées et ventrues, et encore d'autres espèces colorées que Tommy ne sait pas identifier mais qui l'escortent, tandis que Marjorie a accéléré la cadence et pris quelques mètres d'avance. C'est alors qu'il entend distinctement le son d'une cloche dans les profondeurs. C'est Alba et 680 kilos d'airain, sa volée claire et énergique, sa sonnerie longue et pure, toute proche, elle se répand dans l'eau du lac, sa carillonne. Tommy ne saurait distinguer l'Angélus du tocsin, le glas de l'office, ne saurait dire ce qu'elle annonce, mais le marteau frappe fort contre la robe d'étain et de cuivre, et les poissons ont fui, dispersés comme sous l'effet d'une déflagration, une explosion acoustique dont les débris sonores se propagent en écho.
Saivos de Joyce Ormond et Maëlys de Carangal, c'est le livre que tu nous présentes aujourd'hui, Anne-Françoise. C'est aux éditions L'Inculte. Merci Anne-Françoise.
Merci Amaury.
Et on se retrouve dès le mois prochain donc pour un nouveau livre que tu nous présentes.
À bientôt.